Le moine. Chapitre 11. Ambrosio était certain que les moines et les nonnes seraient à la procession, et il n'avait pas à craindre d'être interrompu. Sûr de n'être pas découvert, il ne reculait pas devant l'idée d'employer la violence, ou s'il éprouvait quelque répugnance à le faire, elle ne venait pas d'un motif de honte ou de compassion, mais de l'amour sincère et ardent qu'il ressentait pour Antonia, et du désir de ne devoir ses faveurs qu'à elle-même. Les moines quittèrent le couvent à minuit. Mathilde était parmi les chantres et conduisait le chant. Ambrosio fut laissé à lui-même et libre de suivre ses inclinations. Convaincu qu'il n'était resté personne qui pût épier ses mouvements ou troubler ses plaisirs, il se hâta de gagner les galeries de l'Ouest. Le cœur palpitant d'espoir et aussi d'anxiété, il traversa le jardin, ouvrit la porte qui donnait sur le cimetière et en peu de minutes fut devant les caveaux. Il ouvrit la porte avec précaution, comme s'il craignait d'être entendu. Il s'enfonça dans les longs passages dont Mathilde lui avait enseigné les détours et parvint au caveau particulier qui contenait sa maîtresse endormie. À côté de trois cadavres en putréfaction était la belle endormie. Un rouge vif avant-coureur de la vie renaissante était déjà répandu sur ses joues, et enveloppée comme elle était dans un linceul et couchée sur sa bière, elle avait l'air de sourire aux objets funèbres qui l'entouraient. Il l'emporta, toujours immobile, de la tombe. Il s'assit sur un banc de pierre et, la soutenant dans ses bras, il épia avec impatience les symptômes de la vie renaissante. C'est à peine s'il était assez maître de ses transports pour attendre qu'elle ne fût plus insensible. L'ardeur naturelle de ses désirs s'était accrue par les difficultés qu'il avait rencontrées, ainsi que par une longue abstinence. Car depuis qu'il avait abdiqué tout droit à son amour, Mathilde l'avait exilé pour toujours de ses bras. Sevré tout à coup des plaisirs dont l'habitude lui avait fait un besoin absolu, le moine sentit vivement cette privation. Naturellement porté à assouvir ses sens, dans la pleine vigueur de la virilité et de la chaleur du sang, il avait laissé prendre un ascendant tel à son tempérament que sa concupiscence allait jusqu'à la folie. Peu à peu, il sentit la chaleur ranimer le sein qui reposait contre le sien. De nouveau, le cœur battit, le sang circula plus rapide, et les lèvres remuèrent. Enfin, elle ouvrit les yeux. Voyant qu'elle était pleinement revenue à l'existence, il la serra avec transport contre lui, et imprima un long baiser sur ses lèvres. La soudaineté de cette action suffit pour dissiper les fumées qui obscurcissaient la raison d'Antonia. Elle se leva précipitamment et jeta autour d'elle un regard éperdu. Les objets étranges qui se présentaient à sa vue, de tous côtés, contribuaient à confondre ses idées. Elle porta la main à sa tête, comme pour asseoir son imagination en désordre. « Où suis-je ? » dit-elle brusquement. « Comment suis-je venue ici ? Où est ma mère ? Je croyais l'avoir vue. Oh, un rêve affreux m'a dit. Mais où suis-je ? « Laissez-moi partir, je ne puis rester ici. » Elle essayait de se lever, mais le moine l'en empêcha. « Calmez-vous, charmante Antonia, » répondit-il. « Ne reconnaissez-vous pas votre ami Ambrosio ?»«
Ambrosio, mon ami ? Ah oui, oui, je me le rappelle. Mais pourquoi suis-je ici ? Qui m'y a emmené ? Pourquoi êtes-vous avec moi ? Oh, Flora m'a recommandé de prendre garde. Il n'y a ici que des cercueils. » « Des tombes, des squelettes. Ce lieu m'effraie. Bon Ambrosio, emmenez-moi. »«
Pourquoi cette erreur, Antonia ?» repartit le prieur, la serrant contre lui et couvrant son sein de baisers qu'elle s'efforçait en vain d'éviter. « Que craignez-vous de moi ? De quelqu'un qui vous adore ?» En parlant ainsi, il renouvelait ses embrassements et se permettait les plus indécentes libertés. Malgré toute son ignorance, Antonia comprit le danger. Elle s'arracha au bras du prieur et, n'ayant pour tout vêtement que son linceul, elle s'enferma dedans.
« Laissez-moi, mon père »
cria-t-elle, sa vertueuse indignation tempérée par l'effroi de son isolement. Le ton résolu dont elle parlait ne laissa pas que d'étonner le moine, mais ne produisit pas sur lui
d'autre effet que la surprise. Il lui prit la main, la força de se rasseoir sur ses genoux, et la regardant d'un œil luxurieux, il lui répondit « Remettez-vous, Antonia, la résistance est inutile, et je ne veux pas vous déguiser plus longtemps ma passion. On vous croit morte, le monde est à jamais perdu pour vous, seul je vous possède ici, vous êtes entièrement en mon pouvoir. Les désirs qui me brûlent, il faut que je les satisfasse ou que je meure, mais je voudrais ne devoir mon bonheur qu'à vous, ma charmante fille, mon adorable Antonia. Laissez-moi vous enseigner les jouissances que vous ignorez encore, vous apprendre à sentir dans mes bras les plaisirs que je vais goûter dans les vôtres. » De moment en moment, la passion du moine devenait plus ardente et la terreur d'Antonia plus intense. Elle lutta pour se dégager. Ses efforts furent sans succès et, voyant Ambrosio s'enhardir de plus en plus, elle appela au secours à grands cris. L'aspect du caveau, la pâle lueur de la lampe et les objets funèbres que ses yeux rencontraient de toutes parts étaient peu faits pour lui inspirer les sentiments qui agitaient le prieur. Ses caresses même l'éprouvaient par leur fureur. Cet effroi, au contraire, cette répugnance manifeste, cette résistance incessante ne faisaient qu'enflammer les désirs du moine et prêter de nouvelles forces à sa brutalité. Sans faire attention aux pleurs, aux cris, aux prières, il se rendit peu à peu maître d'elle, et ne quitta sa proie que lorsqu'il eut consommé son forfait et le déshonneur d'Antonia. À peine eut-il accompli son dessein, qu'il eut horreur de lui-même et des moyens qu'il avait employés. L'excès même de son ardeur luxurieuse contribuait maintenant à lui inspirer du dégoût, et une voix secrète lui disait combien était bas et inhumain le crime qu'il venait de commettre. Celle qui naguère était l'objet de son adoration n'excitait plus dans son cœur d'autres sentiments que l'aversion et la rage. Il s'était détourné, et si ses yeux se reportaient sur elle involontairement, ce n'était que pour rencontrer des regards de haine. L'infortunée s'était évanouie avant que son déshonneur fût consommé. Elle ne revint à la vie que pour sentir son malheur. Elle resta étendue sur la terre, dans un muet désespoir. Les larmes se succédaient lentement sur ses joues, et de fréquents sanglots gonflaient sa poitrine. Accablée de chagrin, elle demeura quelque temps dans cet état de torpeur. Enfin, elle se leva avec difficulté, et traînant vers la porte ses pas affaiblis, elle se disposa à quitter le caveau. Le son des pas tira le moine de sa sombre apathie. Il poursuivit la victime de sa brutalité et l'eut bientôt rejointe. Il la saisit par le bras et la repoussa violemment dans le caveau. « Que voulez-vous de plus ? » dit-elle timidement. « Ma ruine n'est-elle pas complète ? Laissez-moi retourner chez moi et pleurer en liberté ma honte et ma misère. » « Retournez chez vous ! » répéta le moine avec une ironie amère et dédaigneuse. Puis tout à coup, les yeux flamboyants de colère. « Quoi ? Afin que vous me dénonciez au monde ? Afin que vous me proclamiez un hypocrite, un ravisseur, un traître, un monstre de cruauté, de libertinage et d'ingratitude ? Malheureuse fille, vous devez rester ici avec moi, ici parmi ces tombes solitaires, ces images funèbres, ces corps hideux, putréfiés. Ici vous resterez et vous serez témoin de mes souffrances. » Vous verrez ce que c'est que d'être en proie aux horreurs du désespoir et de rendre le dernier soupir dans le blasphème et les imprécations. » En prononçant ces paroles d'une voix tonnante, il serrait avec violence le bras d'Antonia et frappait la terre dans le délire de la rage. Lui croyant le cerveau dérangé, Antonia, épouvantée, tomba à genoux. Elle leva les mains vers lui et sa voix expira presque sans pouvoir rendre un son. « Grâce, grâce !» murmura-t-elle avec peine. « Silence !» cria le prieur, éperdu, et il la jeta à terre. Il la quitta et parcourut le caveau d'un air sauvage et égaré. Ses yeux roulaient d'une manière effrayante. Antonia tremblait lorsqu'elle les rencontrait. Il paraissait méditer quelque chose d'horrible, et elle perdit tout espoir de sortir vivante de ses tombeaux. Pourtant, cette idée était injuste. Au milieu de l'horreur et du dégoût auquel son âme était en proie, la pitié pour sa victime tenait encore une place. La fougue de sa passion, une fois calmée, il aurait donné des mondes, s'il en avait eu pour lui rendre l'innocence dont sa concupiscence l'avait privé. Ses désirs qui l'avaient poussé au crime, pas une trace ne restait dans son sein. Tout l'or de l'Inde ne l'aurait pas décidé à essayer de la posséder encore. Tout son être semblait se révolter à cette idée, et il aurait bien voulu effacer de sa mémoire la scène qui venait de se passer. À mesure que diminuait sa sombre fureur, sa compassion pour Antonia augmentait. Il s'arrêta et aurait voulu lui adresser quelques consolations, mais il ne sut d'où les tirer et il resta à la regarder dans une morne stupeur. Il se décida à la laisser passer pour morte et à la retenir captive dans cette sombre prison. Il se proposait de venir tous les soirs lui apporter des aliments, lui témoigner son repentir et confondre leurs larmes. D'une voix entrecoupée, mais aussi douce qu'il put la rendre, détournant les yeux et se faisant à peine entendre, il essaya de la consoler d'un malheur qui ne pouvait plus se réparer. Il protesta de son repentir sincère et de la joie qu'il aurait de racheter par autant de gouttes de sang chacune des larmes qu'il lui avait fait répandre. Misérable et désespéré, Antonia l'écoutait avec une douleur silencieuse, mais lorsqu'il lui annonça qu'elle serait retenue dans le caveau, dans cet affreux séjour auquel la mort même était préférable, elle se réveilla soudain de son insensibilité. Elle retomba à genoux. Elle demanda grâce dans les termes les plus pathétiques et les plus pressants. Elle promit, s'il voulait la rendre à la liberté, de cacher au monde les outrages qu'elle avait subis, de donner à sa réapparition tous les motifs qu'il jugerait convenables. Et afin que le plus petit soupçon ne tombât pas sur lui, elle offrit de quitter immédiatement Madrid. Ses instances furent assez fortes pour faire une grande impression sur le prieur. Il réfléchit que, comme elle n'excitait plus en lui de désir, il n'avait plus d'intérêt à la tenir cachée comme il en avait d'abord eu l'intention, que c'était ajouter de nouveaux malheurs à tous ceux qu'elle avait déjà souffert, et que si elle était fidèle à ses promesses, qu'elle fût en prison ou en liberté, d'aucune manière il n'avait personnellement rien à craindre pour sa vie ni pour sa réputation. D'un autre côté, il tremblait qu'Antonia, dans son affliction, ne manquât sans le vouloir à son engagement, ou que son extrême simplicité et son ignorance de la ruse ne permissent à quelqu'un plus adroit de surprendre son secret. Quelque fondées que fussent ses craintes, la compassion et un désir sincère de réparer sa faute autant que possible le sollicitèrent d'accéder aux prières de la suppliante. La difficulté de colorer le retour imprévu d'Antonia à la vie, après sa mort supposée et son enterrement public, était le seul point qui le tint irrésolu. Il pesait dans son esprit les moyens d'écarter cet obstacle, lorsqu'il entendit des pas précipités. La porte du caveau s'ouvrit, et Mathilde accourut, évidemment pleine de trouble et d'effroi. En voyant entrer un étranger, Antonia poussa un cri de joie, mais l'espoir d'être secourue par lui fut bientôt dissipé. Le novice supposé n'exprima pas la moindre surprise de trouver une femme seule avec le prieur, dans un lieu si étrange et à une heure si avancée, et s'adressa à lui sans perdre un moment. « Que faut-il faire, Ambrosio ? Nous sommes perdus si on ne trouve pas un moyen de repousser l'émeute. » « Ambrosio, le couvent de Sainte-Claire est en feu. L'abbesse est tombée victime de la fureur de la populace. Déjà, le monastère est menacé d'un destin semblable. Alarmés de cris du peuple, les moines vous cherchent de tous côtés. Ils s'imaginent que votre autorité seule suffira pour calmer ce désordre. Personne ne sait ce que vous êtes devenu, et votre absence excite partout de l'étonnement et le désespoir. J'ai profité de la confusion, et j'accours vous avertir du danger. » « Le remède est facile, » répondit le prieur. « Je retourne à ma cellule. Une raison quelconque expliquera mon absence. »« Impossible, » répartit Mathilde. « Le souterrain est rempli d'archers. Lorenzo de Medina et plusieurs officiers de l'Inquisition parcourent les caveaux et occupent chaque passage. Vous serez arrêté dans votre fuite. On vous demandera à quel motif vous avez d'être si tard dans le souterrain. On trouvera Antonia, et vous êtes à jamais perdu. » Lorenzo de Medina ! Des officiers de l'Inquisition ! Mais que viennent-ils faire ? Est-ce moi qu'ils cherchent ? Suis-je donc suspecté ? Oh, parlez, Mathilde, répondez-moi par pitié. » « Ils ne pensent pas encore à vous, mais je crains qu'ils n'y pensent avant peu. Votre seule chance de leur échapper réside dans la difficulté d'explorer ce caveau. La porte est artistement dissimulée. Il est possible qu'ils ne la voient pas et que nous puissions rester cachés jusqu'à ce que leur perquisition soit finie. Mais Antonia, si les inquisiteurs approchent et qu'on entend ces cris...
Voici le moyen d'éviter ce danger, interrompit Mathilde. En même temps, elle tira un poignard et s'élança sur sa proie.
Arrêtez! Arrêtez! Cria Ambrosio, lui saisissant la main et lui arrachant l'arme déjà levée. Que voulez-vous faire, cruel? L'infortuné n'a déjà que trop souffert grâce à vos pernicieux conseils. Plût à Dieu que je les eusse jamais suivis. Plût à Dieu que je n'eusse jamais vu votre visage.
Mathilde lui jeta un regard de mépris.
C'est absurde, s'écria-t-elle d'un air de colère et de dignité qui imposa au prieur. Après lui avoir dérobé tout ce qui la lui rendait cher, pouvez-vous craindre de la priver d'une vie misérable? Mais c'est bien qu'elle vive pour vous convaincre de votre folie. Je vous abandonne à votre mauvais destin. Je répudie notre alliance. Celui qui tremble de commettre un crime si insignifiant ne mérite pas ma protection. Écoutez, écoutez, Ambrosio. N'entendez-vous pas les archers? Ils viennent et votre perte est inévitable.
En ce moment, le prieur entendit un bruit lointain de voix. Il courut à la porte, du secret de laquelle dépendait son salut et que Mathilde avait négligé de fermer. Avant d'y parvenir, il vit Antonia tout à coup se glisser près de lui, franchir la porte et voler vers le bruit avec la rapidité d'une flèche. Elle avait écouté attentivement Mathilde. Elle avait entendu nommer Lorenzo et s'était résolue à tout risquer pour se réfugier sous cette protection. La porte était ouverte. Les sons lui prouvaient que les archers ne pouvaient pas être à une grande distance. Elle rassembla le peu de force qui lui restait, dépassa le moine avant qu'il remarquât son projet et se dirigea promptement vers les voies. Revenu de sa première surprise, le prieur ne manqua pas de la poursuivre. Tous ses muscles tendus, vainement, Antonia redoublait de vitesse. À chaque moment, l'ennemi gagnait sur elle du terrain. Elle entendit ses pas derrière elle. Elle sentit sur le cou la chaleur de son haleine. Il l'atteignit. Il enfonça les mains dans les boucles de ses cheveux flottants et essaya de l'entraîner vers le caveau. Antonia résista de toute sa force. Elle entoura de ses bras un des piliers qui supportait la voûte et appela au secours à grands cris. En vain, le prieur s'efforçait de lui imposer silence.
« Au secours ! » continuait-elle de crier. « Au secours ! Au secours pour l'amour de Dieu !»
Accéléré par ses cris, on entendit les pas se rapprocher. Le prieur s'attendait à tout moment à voir arriver les inquisiteurs. Antonia résistait toujours, et il la força au silence par le moyen le plus horrible et le plus inhumain. Il avait encore le poignard de Mathilde. Sans se donner un instant de réflexion, il le leva et le plongea deux fois dans le sein d'Antonia. Elle poussa un cri et tomba. Le moine essaya de l'emporter, mais elle tenait toujours le pilier fortement embrassé. En ce moment, la lumière des torches qui approchaient brilla sur les murs. Craignant d'être découvert, Ambrosio fut forcé d'abandonner sa victime, et il s'enfuit au caveau où il avait laissé Mathilde. Ce ne fut pas sans être vu. Don Ramirez, qui se trouva arrivé le premier, aperçut par terre une femme baignée de sang, et un homme qui s'enfuyait et dont le trouble indiquait que c'était le meurtrier. Aussitôt, il le poursuivit avec une partie des archers, tandis que les autres restaient avec Lorenzo pour protéger l'étrangère blessée. Ils la soulevèrent et la soutinrent dans leurs bras. Elle s'était évanouie de douleur, mais bientôt elle donna des signes de vie. Elle ouvrit les yeux et, en relevant la tête, rejeta en arrière la forêt de cheveux blonds qui, jusque-là, avait caché son visage.
Dieu tout-puissant, c'est Antonia!
Telle fut l'exclamation de Lorenzo, et l'arrachant des bras des gardes, il la prit dans les siens. Quoique dirigé par une main incertaine, le poignard n'avait que trop bien atteint le but de son maître. Les blessures étaient mortelles, et Antonia sentait qu'elle n'en reviendrait pas. Cependant, le peu d'instants qui lui restaient furent des instants de bonheur. Elle était touchée, elle était couchée, la tête appuyée sur le sein de Lorenzo, et ses lèvres lui murmurant encore de douces paroles de consolation. Elle fut interrompue par l'horloge du couvent qui, dans le lointain, sonna l'heure. Aussitôt les yeux d'Antonia étincelèrent d'un éclat céleste.
Tout son corps parut reprendre de la vie. Elle se releva dans les bras de son amant.
« 3 heures !» s'écria-t-elle. « Ma mère, je viens !»
Elle joignit les mains et tomba morte. Lorenzo, désespéré, se jeta près d'elle. Il s'arracha les cheveux, se frappa la poitrine et refusa de se séparer du cadavre. Enfin, ses forces étant épuisées, il se laissa emmener hors du caveau et transporté au palais de Médina, presque aussi inanimé que l'infortunée Antonia. Ambrosio, cependant, quoique suivi de près, avait réussi à regagner le caveau. La porte était déjà refermée lorsque Don Ramirez arriva, et beaucoup de temps s'écoula avant que la retraite du fugitif fût découverte. Mais rien ne résiste à la persévérance. Tout artistement dissimulée qu'elle était, la porte ne put échapper à la vigilance des archers. Ils la forcèrent et entrèrent dans le caveau, au grand effroi d'Ambrosio et de sa compagne. La confusion du moine, ses efforts pour se cacher, sa fuite rapide et ses vêtements tachés de sang ne permettaient pas de douter qu'il ne fût le meurtrier d'Antonia. Mais quand il fut reconnu pour l'immaculé Ambrosio, l'homme de Dieu, l'idole de Madrid, les facultés des spectateurs furent enchaînés par la surprise, et ils purent à peine se persuader que ce qu'ils voyaient n'était point une vision. Le prieur n'essaya point de se disculper, mais garda un morne silence. On se saisit de lui, et on le garrotta. La même précaution fut prise avec Mathilde. Son capuchon ayant été écarté, la délicatesse de ses traits et la profusion de ses cheveux dorés trahirent son sexe. Et cet incident excita une nouvelle stupéfaction. Le poignard aussi fut trouvé dans la tombe, où le moine l'avait jeté, et après une exacte perquisition dans le souterrain, les deux coupables furent conduits dans les prisons de l'Inquisition. Les effets trouvés dans les cellules du prieur et de Mathilde furent saisis et portés à l'Inquisition pour servir de pièce à conviction. À cela près, tout demeura comme par le passé, et l'ordre et la tranquillité se rétablirent dans Madrid. Aveuglée par le ressentiment, la populace avait immolé chaque nonne qui lui était tombée sous la main. Celle qui avait échappé le devait entièrement à la prudence et à la modération du duc de Médina. Elle le sentait bien, et en gardait à ce seigneur toute la reconnaissance qu'il méritait. Alarmé de l'émeute, et tremblant pour la sûreté de sa fille, le seul enfant qu'il eut, le marquis avait volé au couvent de Sainte-Claire, et était encore occupé à la chercher. On envoya de tous côtés des messagers pour lui apprendre qu'il la trouverait saine et sauve à son hôtel et pour l'inviter à s'y rendre immédiatement. Son absence laissa à Virginie la liberté de donner toute son attention à sa protégée, et quoique fort troublée elle-même des aventures de la nuit, aucune insistance ne put la déterminer à quitter le lit de la malade. Celle-ci, dont la constitution avait été ébranlée par le besoin et la douleur, fut quelque temps avant de recouvrer l'usage de ses sens. Elle eut une grande difficulté à avaler les remèdes qui lui furent ordonnés. Mais cet obstacle écarté, elle triompha aisément de sa maladie qui ne provenait que de sa faiblesse. Les soins dont elle était l'objet, la nourriture saine dont elle avait été longtemps privée et la joie d'être rendue à la liberté, à la société et, elle osait l'espérer, à l'amour, tout se réunit pour accélérer son rétablissement. Du premier instant qu'elle s'était connue, sa triste position, ses souffrances, presque incomparables, lui avaient valu l'affection de son aimable hôtesse. Virginie sentait pour elle le plus vif intérêt. Mais quel ravissement elle éprouva lorsque, suffisamment rétablie pour raconter son histoire, la nonne captive se trouva être la sœur de Lorenzo. Cette victime de la cruauté monastique n'était autre en effet que l'infortunée Agnès. Virginie l'avait bien connue au couvent, mais sa maigreur, ses traits altérés par le chagrin, le bruit de sa mort généralement accrédité, ses cheveux grandis et emmêlés qui pendaient en désordre sur sa figure et son sein, l'avaient d'abord rendue méconnaissable. L'abbesse avait mis tout en œuvre pour décider Virginie à prendre le voile, car l'héritière de Villafranca n'était point une acquisition à dédaigner. Ses démonstrations de tendresse et ses prévenances continuelles avaient réussi à en donner sérieusement la pensée à sa jeune parente. Mieux instruite des dégoûts et des ennuis de la vie monastique,
Agnès avait pénétré le dessein de la supérieure. Elle avait tremblé pour l'innocente fille et entrepris de lui faire voir son erreur. Elle lui avait dépeint sous leur vrai jour les nombreux inconvénients attachés à un couvent. La contrainte perpétuelle, les basses jalousies, les intrigues mesquines, la cour servile et la flatterie grossière exigées par la supérieure. Puis elle avait engagé Virginie à réfléchir à la brillante perspective qui se présentait devant elle. L'idole de ses parents, l'admiration de Madrid, douée par la nature et l'éducation de toutes les perfections du corps et de l'esprit, elle pouvait prétendre à l'établissement le plus fortuné. Ses richesses lui fourniraient les moyens de pratiquer dans toute leur étendue la charité et la bienveillance, ces vertus qui lui étaient si chères. Et en restant dans le monde, elle serait à même de découvrir des objets dignes de sa protection, ce qui ne pouvait se faire dans la retraite d'un couvent. Ces conseils avaient détourné Virginie de toute idée de prendre le voile, mais un autre argument dont Agnès n'avait point fait usage eut sur elle plus de poids que tout le reste ensemble. Elle avait aperçu Lorenzo quand il était venu voir sa sœur à la grille. Il lui avait plu, et tous les entretiens qu'elle avait avec Agnès se terminaient en général par des questions sur son frère. Celle-ci, qui adorait Lorenzo, ne demandait pas mieux que d'avoir une occasion d'entonner ses louanges. Elle parlait de lui avec transport, et pour convaincre de la justesse de ses idées, de la culture de son esprit et de l'élégance de ses expressions, elle montrait de temps en temps les lettres qu'elle recevait de lui. Agnès remarqua bientôt que par ses confidences, elle avait fait sur le cœur de sa jeune amie une impression qu'elle avait été loin de vouloir produire, mais qu'elle fut vraiment heureuse d'observer. Elle ne pouvait pas souhaiter pour son frère un parti plus avantageux. Héritière de Villafranca, vertueuse, affectionnée, belle et accomplie, Virginie semblait faite pour le rendre heureux. Elle sonda son frère à ce sujet, quoique sans mentionner le nom ni les particularités. Il l'assura dans ses réponses que son cœur et sa main étaient entièrement libres, et elle en conclut qu'elle pouvait, sans danger, aller de l'avant. Elle s'étudia donc à développer la passion naissante de son ami. Lorenzo devint le sujet constant de ses entretiens, et l'avidité avec laquelle on l'écoutait, les fréquents soupirs qu'on laissait échapper et l'empressement qu'on mettait à chaque digression à ramener la conversation sur le sujet dont elle s'était écartée, suffirent pour convaincre Agnès que les soins de son frère seraient loin d'être désagréables. Elle se hasarda enfin à parler au duc de ses désirs. Quoique Virginie lui fût personnellement inconnue, il savait assez qui elle était pour la juger digne de la main de son neveu. Il fut donc convenu, entre l'oncle et la nièce, qu'elle insinuerait cette idée à Lorenzo, et elle attendait qu'il revînt à Madrid pour lui proposer d'épouser son amie. Les malheureux événements qui eurent lieu dans l'intervalle l'empêchèrent d'exécuter son dessein. Virginie la pleura sincèrement, et comme compagne et comme la seule personne à qui elle put parler de Lorenzo. Son cœur continua en secret d'être la proie de sa passion, et elle s'était presque déterminée à avouer ses sentiments à sa mère, lorsque le hasard lui en présenta l'objet. En le voyant si près d'elle, si poli, si sensible, si intrépide, elle avait senti s'accroître l'ardeur de son affection. Quand elle vit que son amie, que sa conseillère, lui était rendue, elle la regarda comme un présent du ciel. Elle osa nourrir l'espérance d'être unie à Lorenzo, et résolut d'user sur lui de l'influence de sa sœur. Supposant qu'avant de mourir, Agnès avait pu faire sa proposition, le duc avait mis sur le compte de Virginie toutes les idées de mariage de son neveu. En conséquence, il leur avait fait le plus favorable accueil. De retour à son hôtel, le récit de la mort d'Antonia et de la conduite de Lorenzo en cette occasion lui fit voir sa méprise. Il déplora ses malheurs, mais la pauvre fille se trouvait mise de côté. Il compta sur la réussite de son plan. Il est vrai que la situation de Lorenzo le disposait mal à des fiançailles. Ses espérances déçues, au moment où il s'attendait à les réaliser, l'avaient cruellement affecté. Le duc le trouva malade, au lit. On avait de sérieuses inquiétudes pour sa vie, mais son oncle ne les partagea pas. Son avis était, et il n'avait pas tort, que des hommes sont morts, et les vers les ont mangés, mais ce n'était pas d'amour. Il se flattait donc que, toute profonde que pouvait être l'impression faite sur le cœur de son neveu, le temps et Virginie sauraient l'effacer. il courut chez le jeune affligé et tâcha de le consoler. Il compatit à sa douleur, mais l'exhorta à résister à l'envahissement du désespoir. Il convint qu'il était impossible de ne pas être ébranlé d'un choc si épouvantable et de le blâmer d'y être sensible, mais il le conjura de ne point se consumer en regrets superflus, de lutter plutôt contre la douleur et de conserver la vie, sinon pour lui-même, au moins pour ceux qui lui étaient tendrement attachés. Tout en travaillant ainsi à faire oublier à Lorenzo la perte d'Antonia, le duc faisait une cour assidue à Virginie, et saisissant toutes les occasions de servir auprès d'elle les intérêts de son neveu. Il est facile de présumer qu'Agnès ne fut pas longtemps sans demander des nouvelles de Don Raymond. Elle fut peinée d'apprendre la triste situation où le chagrin l'avait réduit. Cependant, elle ne put s'empêcher de triompher secrètement, en songeant que sa maladie prouvait la sincérité de l'amour. Le duc se chargea lui-même d'annoncer au malade le bonheur qui l'attendait. Quoique pour le préparer à un tel événement, il n'eût négligé aucune précaution à ce passage soudain du désespoir au bonheur. Les transports de Raymond furent si violents qu'ils faillirent lui être funestes. Une fois cet accès passé, la tranquillité d'esprit, la certitude d'être heureux, et par-dessus tout la présence d'Agnès qui, dès qu'elle fut guérie grâce à Virginie et à la marquise, était accourue soigner son amant, le mirent bientôt en état de surmonter les effets de cette affreuse maladie. Le repos de l'âme se communiqua au corps, et il se rétablit avec une rapidité qui causa une surprise générale. Il n'en était pas de même de Lorenzo. La mort d'Antonia, accompagnée de si terribles circonstances, était un poids bien lourd sur son esprit. Ce n'était plus qu'une ombre. Rien ne pouvait le distraire. C'est à peine qu'on le décidait à prendre suffisamment de nourriture pour se soutenir, et on craignait une phtisie. La société d'Agnès était sa seule consolation. Quoique le hasard ne leur eût guère permis d'être ensemble, il avait pour elle une sincère amitié. Voyant combien lui était nécessaire, elle quittait rarement sa chambre. Elle écoutait ses plaintes avec une infatigable attention, et elle le calmait à force de douceur et de compassion. Elle habitait toujours le palais de Villafranca, dont les maîtres la traitaient avec une affection marquée. Le duc avait déclaré au marquis ses désirs au sujet de Virginie. Le parti était irréprochable. Lorenzo était héritier des biens immenses de son oncle et se distinguait par l'agrément de sa personne, l'étendue de son savoir et la sagesse de sa conduite. Ajoutez à cela que la marquise avait découvert combien sa fille était favorablement disposée pour lui. En conséquence, la proposition du duc fut acceptée sans délai. Toutes les précautions furent prises pour que Lorenzo vît sa future avec les sentiments qu'elle méritait si bien inspirés. Dans ses visites à son frère, Agnès était souvent accompagnée de la marquise, et aussitôt qu'il put quitter le lit, Virginie, sous sa protection maternelle, eut quelquefois la permission de lui exprimer les vœux qu'elle faisait pour sa guérison. Elle s'en acquittait avec tant de délicatesse, la manière dont elle parlait d'Antonia était si tendre et si touchante, et lorsqu'elle déplorait la triste destinée de sa rivale, ses yeux brillants étaient si beaux au travers des larmes que Lorenzo ne pouvait la voir ni l'écouter sans émotion. Chaque jour, la société de Virginie semblait lui faire un plaisir nouveau, et il parlait d'elle avec plus d'admiration. Ses parents, aussi bien que l'intéressé, le remarquaient, mais ils gardaient prudemment leurs observations pour eux. Aucun mot ne leur échappait qui pût faire soupçonner leur dessein. Ils restaient fidèles à leur plan de conduite et laissaient le temps mûrir et transformer en un plus vif sentiment l'amitié que Lorenzo éprouvait déjà pour elle. Les visites de Virginie cependant devenaient plus fréquentes, et enfin il n'y eut plus guère de jours dont elle ne passa une partie près de lui. Peu à peu il recouvra ses forces, mais les progrès de sa convalescence étaient lents et douteux. Un soir il sembla être moins abattu qu'à l'ordinaire. Agnès et son amant le duc, Virginie et ses parents, étaient assis autour de lui. Pour la première fois, il pria sa sœur de lui apprendre comment elle avait échappé aux effets du poison que Sainte-Ursule lui avait vu boire. Craignant de lui rappeler des scènes dans lesquelles Antonia avait péri, elle lui avait jusqu'alors caché l'histoire de ses souffrances. Maintenant qu'il amenait lui-même l'entretien sur ce sujet, elle pensa que, peut-être, le récit de ses malheurs pourrait le détourner de la contemplation de ceux qui l'occupaient trop constamment, et elle acquiesça sur-le-champ à la demande qu'il faisait. Le reste de la compagnie avait déjà entendu son histoire, mais l'intérêt que tous les assistants portaient à l'héroïne les rendait désireux de l'entendre de nouveau. Toute la société se joignant donc à Lorenzo, Agnès obéit. Elle raconta d'abord la découverte qui avait eu lieu dans la chapelle du couvent, le ressentiment de la supérieure et la scène nocturne dont sainte Ursule avait été secrètement témoin. Quoique la nonne eût déjà décrit ce dernier événement, Agnès le raconta plus en détail, après quoi elle continua son récit de la manière suivante. Fin de l'histoire d'Agnès de Médina. Ma mort supposée fut précédée de la plus affreuse agonie. Ces moments, que je croyais être mes derniers, étaient rendus plus amers par les assurances de l'abbesse que je ne pouvais échapper à la damnation. Quand je revins à la vie, mon âme était encore sous l'impression de ces terribles idées. Je regardais avec crainte alentour, m'attendant à voir les ministres de la vengeance divine. Une grande heure s'écoula avant que je fusse en état d'examiner les objets environnants. Quand je le fis, quelle terreur remplit mon sein! Je me trouvais étendu sur une espèce de lit d'osier. Il avait 6 poignées qui avaient dû servir aux nonnes à me porter au tombeau. J'étais couverte d'un drap. Quelques fleurs fanées étaient éparses sur moi. D'un côté était un petit crucifix de bois, de l'autre un rosaire à gros grains. 4 murs bas et étroits m'emprisonnaient. Le haut était fermé aussi d'une petite grille par où passait le peu d'air qui circulait dans ce misérable endroit. Une faible lueur qui m'arrivait à travers les barreaux me permettait de distinguer les horreurs dont j'étais entouré. Une odeur infecte et malsaine me suffoquait. Remarquant que la grille n'était point fermée, je pensais qu'il ne serait pas impossible de m'échapper. Comme je me levais dans ce dessein, ma main se posa sur quelque chose de doux. Je le pris et l'approchai de la lumière. Dieu tout-puissant, quel fut mon dégoût, ma consternation! En dépit de sa putréfaction et des vers qui la rongeaient, j'aperçus une tête humaine et reconnus les traits d'une nonne qui était morte quelques mois auparavant. Je la jetai loin de moi et tombai presque sans vie sur ma bière. Quand la force me revint, cette circonstance et l'idée d'être au milieu des cadavres hideux de mes compagnes accrurent mes désirs de m'évader de mon affreuse prison. Je me redressai vers la lumière. La grille était à ma portée. Je la soulevai sans peine. Probablement on l'avait laissée ouverte pour faciliter ma fuite. En m'aidant de l'irrégularité des murs, dont certaines pierres dépassaient les autres, je parvins à les escalader et à sortir de ma prison. Je me trouvai dans un caveau assez spacieux. Plusieurs tombeaux, extérieurement semblables à celui dont je venais de m'échapper, étaient rangés sur les côtés et paraissaient considérablement enfoncés dans la terre. Je devinai sur le champ que l'abbesse s'était méprise sur la nature de la liqueur qu'elle m'avait forcée de boire, et qu'au lieu de poison, elle m'avait administré un puissant narcotique. Je tâchai de nouveau d'ouvrir la porte, mais elle résista à tous mes efforts. Je rassemblai tout ce que j'avais de voix et criai au secours. J'étais trop loin de toute oreille. Aucune voix amie ne répondit à la mienne. Ma longue privation de nourriture commença à me tourmenter. Les tortures de la faim étaient les plus douloureuses et les plus insupportables, et elles semblaient augmenter à chaque heure qui passait sur ma tête. Souvent je fus sur le point de me frapper la tempe à l'angle de quelque monument et de me faire jaillir la cervelle, et de terminer ainsi tous mes maux. Mais le souvenir de mon enfant triomphait de ma résolution. J'avais peur d'une action qui mettait en danger sa vie autant que la mienne. Alors j'exhalai ma douleur en lamentations et en cris de rage. Et de nouveau retombant en faiblesse, je m'asseyais silencieusement et morne sur le piédestal de la statue de Sainte-Claire, les bras croisés et abandonné à un sombre désespoir. Soudain, une tombe voisine frappa mes regards. Sur elle était un panier que je n'avais pas encore remarqué. Je me levai, j'y courus aussi vite que mon corps épuisé me le permit. Avec quel empressement je saisis le panier lorsque je vis qu'il contenait un pain grossier et une bouteille d'eau. Je me jetai avec avidité sur ces humbles aliments. Selon toute apparence, ils étaient dans le caveau depuis plusieurs jours. Le pain était dur et l'eau corrompue, mais jamais nourriture ne me parut si délicieuse. Quand les exigences de la faim furent satisfaites, je me mis à faire des conjectures sur cette nouvelle particularité. Je me demandais si c'était pour moi que le panier avait été mis là. Je penchais à croire que les desseins de la supérieure sur ma vie avaient été découverts par quelqu'une des religieuses qui avait pris parti pour moi, qu'elle avait réussi à substituer un narcotique au poison, qu'elle m'avait apporté de la nourriture pour me soutenir jusqu'à ce qu'elle pût effectuer ma délivrance et qu'elle s'occupait de faire savoir mon danger à mes parents et de leur indiquer le moyen de me tirer de prison. Mes méditations furent interrompues par un bruit de pas. Avec un plaisir indicible, j'entendis la clé tourner dans la serrure. Persuadé que je touchais à ma délivrance, je volai vers la porte avec un cri de joie. Elle s'ouvrit. Mais toutes mes espérances de fuite s'évanouirent quand parut l'abbesse, suivie des quatre mêmes nonnes qui avaient été témoins de ma mort supposée. Elles portaient des torches à la main et me regardèrent avec un silence effrayant. Je reculai de terreur. L'abbesse descendit dans le caveau ainsi que ses compagnes. Elle prit le siège que je venais de quitter. La porte fut refermée et les nonnes se rangèrent derrière leur supérieur. Elle me fit signe d'avancer. Épouvanté de son aspect sévère, j'avais à peine la force d'obéir. Je tombai à genoux, je joignis les mains et les lui tendis, suppliante, sans être en état d'articuler une syllabe. Elle me regarda d'un œil courroucé. « Vois-je une pénitente ou une criminelle ? » dit-elle enfin. « Est-ce le remords du crime ou la crainte du châtiment qui lève ses mains vers moi ? Ses pleurs reconnaissent-ils la justice de la sentence ou ne font-ils que solliciter l'adoucissement de la peine ? De ces motifs, je le crains bien, c'est le dernier. » Elle s'arrêta, mais elle tenait toujours ses yeux fixés sur moi. « Prenez courage, » continua-t-elle, « je ne désire pas votre mort, mais votre repentir. Le breuvage que je vous ai administré n'était pas un poison, mais un narcotique. Mon intention, en vous trompant, a été de vous faire ressentir les tortures d'une conscience coupable, qui se voit surprise par la mort avant l'expiation de ses crimes. Vous avez souffert ces tortures, je vous ai familiarisé avec l'amertume de la mort, et j'espère que vos angoisses momentanées deviendront pour vous un bien éternel. » Cet exorde m'annonçait quelque chose de terrible. Je tremblais et je voulais parler pour désarmer son courroux. Mais un geste de l'abbesse m'imposa silence. Elle poursuivit. Quoiqu'elle soit négligée à tort depuis de longues années et combattue maintenant par plusieurs de nos sœurs égarées, que le ciel convertisse. C'est mon intention de faire revivre les lois de notre ordre dans toute leur force. Celle contre l'incontinence est sévère, mais pas plus que ne l'exige une si monstrueuse offense. Écoutez donc la sentence de Sainte-Claire. Sous ces caveaux, il existe des prisons destinées à recevoir des criminels tels que vous. L'entrée en est habilement cachée, et celle qu'on y enferme doit renoncer à tout espoir de liberté. C'est là que vous allez être conduite. On vous apportera des aliments, mais non suffisamment pour satisfaire votre appétit. Vous en aurez seulement assez pour maintenir l'âme dans le corps, et ils seront de la qualité la plus simple et la plus grossière. Tels sont les ordres de Sainte-Claire. Soumettez-vous-y sans murmure, suivez-moi. » On m'emporta dans l'escalier, et on me fit entrer de force dans une des cellules qui garnissaient le côté du souterrain. Mon sang se glaça à la vue de ce lugubre séjour. Les vapeurs froides suspendues en l'air, les murs verts d'humidité, le lit de paille si dur, si délaissé, les fers destinés à m'enchaîner pour jamais à ma prison, et les reptiles de toute espèce que je vis regagner leur trou à mesure que la torche approchait d'eux, me frappèrent l'âme de terreur, presque trop violente pour être supportée. Folle de désespoir, je m'arrachai des mains qui me tenaient, je me jetai à genoux devant l'abbesse, et j'implorai sa pitié, dans les termes les plus passionnés et les plus frénétiques. « Si ce n'est pas sur moi, dis-je, jetez du moins un regard de pitié sur l'être innocent dont la vie est attachée à la mienne. » L'abbesse recula brusquement et me força de lâcher sa robe, comme si mon attouchement eût été contagieux. « Quoi ? » s'écria-t-elle d'un air exaspéré. « Quoi ? Osez-vous plaider pour le produit de votre honte ? Faut-il laisser vivre une créature conçue dans un péché monstrueux ? Femme abandonnée, ne m'en parlez plus. Il vaut mieux pour le malheureux périr que de vivre, engendré dans le parjure, dans l'incontinence, dans la souillure. Il ne peut manquer d'être un prodige de vice. Entends-moi, fille coupable. N'entends de moi aucune pitié, ni pour toi, ni pour ton avorton. Prie plutôt que la mort te saisisse avant de le mettre au jour. Ou, s'il doit voir la lumière, que ses yeux se referment aussitôt pour jamais. Personne ne t'assistera dans les douleurs de l'enfantement. Mets toi-même au monde ton rejeton. Nourris-le toi-même, soigne-le toi-même, enterre-le toi-même. Et Dieu veuille que ce soit bientôt, afin que tu ne tires pas de consolation du fruit de ton iniquité. Cette torture d'esprit et les scènes épouvantables où j'avais joué un rôle avancèrent le terme de ma grossesse. Dans la solitude et la misère, abandonnée de tous, sans les secours de l'art, sans les encouragements de l'amitié, avec des douleurs qui auraient touché le cœur le plus dur, je fus délivré de mon déplorable fardeau. L'enfant était venu vivant au monde, mais je ne savais qu'en faire, ni par quels moyens lui conserver l'existence. Je ne pouvais que le baigner de mes larmes, le réchauffer dans mon sein et prier pour son salut. Je fus bientôt privé de cette triste occupation. Le manque de soins convenables, l'ignorance de mes devoirs de mère, le froid perçant du cachot et l'air malsain que respiraient ses poumons terminèrent la courte et pénible existence de mon pauvre petit. Il expira peu d'heures après sa naissance, et j'assistai à sa mort, dans des angoisses impossibles à décrire. Il devint bientôt un amas de putréfaction, et pour tout œil un objet d'horreur et de dégoût, pour tout œil, excepté pour celui d'une mère. Vainement cette image de la mort repoussait en moi les instincts de la nature. Je luttai contre cette répugnance, et j'en triomphai. Je persistai à tenir mon enfant contre mon sein, à le pleurer, à l'aimer, à l'adorer. Que d'heures j'ai passé sur mon lit de douleur à contempler ce qui avait été mon fils. Je tâchai de retrouver ses traits sous la corruption livide qui les cachait. Tout le temps de mon emprisonnement, cette triste occupation fut mon seul plaisir. Et je n'y aurais pas renoncé pour tout l'univers. J'étais résigné à mon sort, et déjà j'attendais l'instant de ma mort quand mon ange gardien, quand mon bien-aimé frère, arriva à temps pour me sauver. Ici, Agnès cessa de parler, et le marquis lui répondit en termes également sincères et affectionnés. Lorenzo exprima sa satisfaction de se voir à la veille d'une si étroite alliance avec un homme pour qui il avait toujours eu la plus haute estime. La bulle du pape avait pleinement relevé Agnès de ses engagements religieux. Le mariage fut donc célébré aussitôt que les apprêts nécessaires eurent été terminés, car le marquis désirait que la cérémonie eût lieu avec tout l'éclat et toute la publicité possible. La noce faite, et après avoir reçu les compliments de Madrid, la mariée partit avec Don Raymond pour leur château, en Andalousie. Lorenzo les accompagna, ainsi que la marquise de Villafranca et son aimable fille. Il n'est pas besoin de dire que Théodore fut de la partie, et il serait impossible de décrire la joie qu'il eut du mariage de son maître. Le marquis, avant son départ pour réparer un peu ses négligences précédentes, avait fait prendre des informations au sujet d'Elvire. Apprenant que sa fille et elle avaient reçu plusieurs services de Leonella et de Jacinthe, il témoigna de son respect pour la mémoire de sa belle-sœur en leur faisant à toutes deux de beaux présents. Lorenzo suivit son exemple. Leonella fut extrêmement flattée des attentions de seigneurs si distingués, et Jacinthe bénit l'heure où sa maison avait été ensorcelée. De son côté, Agnès ne manqua pas de récompenser ses amis du couvent. La digne mère Sainte-Ursule, à qui elle devait la liberté, fut nommée à sa demande surintendante des dames de charité. C'était une des meilleures et des plus opulentes sociétés de l'Espagne. Berthe et Cornélie, ne voulant pas quitter leur amie, furent appelées aux principaux emplois du même établissement. Quant aux nonnes qui avaient aidé l'abbesse à persécuter Agnès, Camille, retenue au lit par la maladie, avait péri dans les flammes qui avaient consumé le couvent de Sainte-Claire. Marianne, Alix et Violante, ainsi que deux autres, étaient tombés victimes de la rage populaire. Les trois autres, qui, dans le conseil, avaient appuyé la sentence de la supérieure, furent sévèrement réprimandés et exilés dans des maisons religieuses de province obscures et éloignées. Elles y languirent quelques années, honteuses de leur faiblesse et évitées de leurs compagnes avec aversion et mépris. La fidélité de Flora ne resta pas non plus sans récompense. Consultée sur ses désirs, elle dit être impatiente de revoir son pays natal. En conséquence, on lui procura les moyens de s'embarquer pour Cuba, où elle arriva en sûreté, comblée des présents de Raymond et de Lorenzo. Les dettes de la reconnaissance acquittées, Agnès fut libre de poursuivre l'exécution de son plan favori. Logés dans la même maison, Lorenzo et Virginie étaient perpétuellement ensemble. Plus il la voyait, plus il était convaincu de son mérite. De son côté, elle se mettait en frais pour plaire, et il lui était impossible de ne pas réussir. Lorenzo contemplait avec admiration sa beauté, ses manières élégantes, ses innombrables talents et son humeur si douce. Il était aussi très flatté du penchant qu'elle avait pour lui et qu'elle ne savait pas cacher. Toutefois, ses sentiments n'avaient point chez lui l'ardeur qui caractérisait son amour pour Antonia. L'image de cette charmante et malheureuse fille vivait toujours dans son cœur et se jouait des efforts que faisait Virginie pour l'en chasser. Mais quand le duc proposa une alliance qu'il désirait si vivement, son neveu n'en rejeta point l'offre.